La question que nous vous posions hier était la suivante. Comprenez-vous que les États-Unis veulent empêcher Israël d'utiliser les armes américaines à Rafah? Alors, Lise, qu'en ont pensé nos auditeurs de cette question?
Ils ne comprennent pas, Didier. C'est clair, ils ne comprennent pas. 71% de non sur Insta pour seulement 29% de oui. 78% de non sur Facebook pour 22% de oui. Donc non, ils ne comprennent pas. Et on va demander tout de suite son avis à notre invité Isaac Franco, analyste politique sur Radio Judaïca et chroniqueur pour Chercher l'erreur tous les lundis. Il est au micro de Blaise van der Linden.
Bonjour Isaac Franco.
Bonjour Blaise.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïca. Alors, nous avons posé la question suivante à nos auditeurs. La question est, comprenez-vous que les États-Unis veulent empêcher Israël d'utiliser les armes américaines à Rafah? Alors, Isaac Franco, que pensez-vous pour répondre à cette question?
Si je m'en tiens à la manière dont vous formulez la question, si je comprends cela, non, je ne comprends pas. Un allié d'Israël devrait au contraire informer ou prévenir ou avertir le Hamas que si dans un délai relativement bref, tous les otages sont libérés et que le Hamas dépose les armes, ce qui mettrait automatiquement fin à la guerre, eh bien les États-Unis continueraient d'aider Israël de toutes les manières possibles pour hâter la fin de cette guerre. Mais le problème, c'est qu'on voit de plus en plus que cette guerre ne se fait pas à Gaza, elle se fait à Washington. Elle se fait à Washington parce qu'il y a des considérations domestiques, des considérations liées à la politique intérieure américaine, plus précisément la compétition électorale qui est déjà lancée. Et ces admonestations ou ces avertissements qu'ils ont lancés à Israël que l'engagement de Tsahal dans Rafah serait une ligne rouge et que peut-être les États-Unis envisageraient de mettre un terme à la livraison des armes offensives à Israël et se limiter seulement à la livraison d'armes défensives. C'est ce que, en tout cas, Joe Biden a semblé déclarer à la fois dans son discours sur l'état de l'Union et puis après dans une interview qu'il a donnée à MSNBC. Il y a là un renversement de la position américaine. Rappelez-vous, au début de la guerre, en octobre, le président américain qui s'était déplacé en Israël avait dit que les États-Unis fourniraient à Israël tous les moyens utiles pour mettre fin à la menace que fait peser le Hamas sur l'État d'Israël. Tous les moyens. De la même manière, au début de la guerre, le président Biden avait déclaré ne pas croire du tout aux chiffres des dégâts civils dans la population de Gaza, parce que ces chiffres émanaient de l'organisation terroriste du Hamas. La pression est tellement forte à l'intérieur même de son parti qu'il a dû s'excuser pour avoir mis en doute les chiffres avancés par le Hamas. Du reste, il les a énoncés pendant son discours sur l'état de l'Union. Donc on voit un changement à l'égard d'Israël qui laisse entendre que cette administration américaine est de plus en plus opposée au gouvernement israélien. Le premier ministre israélien est présenté comme le principal obstacle à l'émergence d'une solution politique et même à des mesures qui permettraient à la guerre de prendre relativement fin et d'épargner la population civile. L'administration américaine demande maintenant, exige même maintenant un cessez-le-feu sans la sortir d'une exigence lié à la libération des otages. Donc on voit qu'il y a une modification de plus en plus forte, de plus en plus marquée à l'égard d'Israël. Le fait qu'il ait donné cette interview à MSNBC la veille de son déplacement au Michigan, et on sait que le Michigan est un état bascule, un swing state, qui est une des clés pour l'élection présidentielle du mois de novembre, du 5 novembre prochain, bien, on le comprend mieux. On voit bien ce qui se joue. On voit bien ce qui se joue. Les dégâts dans la population civile, ils sont certes tragiques, éminemment regrettables, comme dans toute guerre, mais on ne fait pas de guerre sans provoquer des dégâts dans la population civile. Dire que le Hamas... que la population de Gaza, ça n'est pas le Hamas, que le Hamas, ça n'est pas les Palestiniens, ça c'est faux. C'est présenté, du reste, c'est prouvé par des sondages, par des instituts de sondage palestiniens qui témoignent au contraire contraire, d'une forte allégeance de la population palestinienne, à la fois de Gaza et de la Judée-Samarie pour ce qui s'est passé le 7 octobre, assorti d'une déclaration de la vice-présidente Kamala Harris qui va jusqu'à dire qu'il faut distinguer le peuple israélien de son gouvernement. Vous voyez le parallèle qui est établi ici, hein. D'un côté, le président qui dit le Hamas, c'est pas les Palestiniens, c'est pas le Hamas, d'une part, et de l'autre, la vice-présidente qui dit le peuple israélien, c'est une chose, le gouvernement, c'est une autre. Ça veut dire que les deux peuples sont exonérés de toute responsabilité, ça paraît évident pour le peuple israélien qui est victime, alors que ça n'est pas le cas pour le peuple palestinien, puisqu'il a démontré son adhésion à ce qui s'est passé le 7 octobre, mais c'est de mettre en parallèle une espèce d'équidistance, une espèce d'égalité entre le Hamas et le gouvernement israélien, qui seraient tous deux responsables de la situation dans laquelle verse la région. Je pense que les Américains comprennent aussi bien que les Israéliens qu'on ne peut pas éteindre un incendie à 80%, pour reprendre les mots de Benjamin Gantz, lorsqu'il critiquait la position américaine qui interdisait ou qui préviendrait les Israéliens d'une aventure à Rafah, on ne peut pas éteindre un incendie à 80%. Donc on l'éteint tout à fait, ou on lui permet de reprendre vie, de reprendre force. Tout le monde comprend bien que, et d'ailleurs les Américains l'ont dit dans les premières semaines qui ont suivi le 7 octobre, qu'il n'y a pas de possibilité d'envisager un quelconque avenir tout le temps que le Hamas existe et tout le temps que le Hamas n'a pas été éradiqué comme force politique ou comme pouvoir de nuisance à l'égard de la population israélienne. Or, 18 bataillons sur les 24 ont été détruits, il en reste 4 à 6 qui se trouvent à Rafah, qui sont reliés par une espèce de cordon sanitaire ou de cordon ombilical qui le relie à la péninsule du Sinaï, par lequel passe la contrebande d'armes qui a permis au Hamas de devenir ce qu'il est devenu. D'ailleurs, tout le monde comprend bien qu'il n'y aura pas de fin à ce conflit, qu'on ne pourra pas mettre le Hamas à genoux et hors d'état de nuire tout le temps qu'on ne prend pas le contrôle de Rafah. Tout le monde le comprend. Et il y a une incohérence dans la position américaine qui s'exprime par ces diverses sorties entre une compréhension de ce que le Hamas doit disparaître pour permettre l'émergence de solutions politiques et de l'autre, d'interdire aux Israéliens de mener cette ambition à son terme.
Quelles pourraient être les conséquences de ces réticences nouvelles américaines ?
Alors que ce soit des réticences, c'est une chose. Si on passe à l'acte, c'est une autre. C'est une autre parce que... ça n'était pas dit de façon explicite, mais c'était sous-entendu dans la parole du président américain. Je reste soucieux, naturellement, de la sécurité de l'État d'Israël, et il n'est pas question de mettre un embargo ou de mettre fin à la livraison d'armes à l'État d'Israël, parce que sinon j'exposerais la population israélienne aux roquettes et que le Iron Dome n'aurait pas les moyens de prévenir ces attaques, ou en tout cas de les contrecarrer. Ça laisse donc entendre que les Américains restent disposés à livrer des armes défensives à Israël, mais pas offensives. C'est donc un semi-embargo. C'est donc assurer la sécurité de la population israélienne en Israël même, mais c'est interdire à l'armée israélienne de mener une offensive qui permettrait de se débarrasser définitivement du Hamas. Une des implications, si on va jusque-là, ce qui provoquerait quand même un clash assez sérieux entre les deux administrations, l'une américaine et l'autre israélienne, c'est que si les Israéliens sont privés de missiles guidés pour équiper leurs avions, pour limiter les pertes dans la population civile, Israël pourrait avoir recours à des armes non intelligentes qui provoqueraient plus de dégâts dans la population civile, ce que l'administration américaine dit vouloir prévenir. Donc, il y a ici quelque chose d'assez contradictoire, mais on est vraiment dans une situation assez désagréable, déplorable, en plein milieu de la guerre, où on voit décidément une administration américaine de plus en plus vocale, de plus en plus hostile à l'égard du gouvernement israélien, dont le Premier ministre est présenté comme le principal obstacle. C'est ça qui est terrible. On n'a jamais entendu un responsable américain comme la vice-présidente américaine lorsqu'elle disait qu'il ne faut pas confondre le gouvernement israélien avec le peuple israélien. On n'a pas entendu dire ça. Elle l'a dit, oui, certes, pour le Hamas, mais elle ne l'a pas dit pour l'autorité palestinienne. Elle n'a jamais dit. L'administration américaine ne se risquerait pas à tirer par la manche la responsabilité de l'autorité palestinienne. Au contraire, elle est promise à cette autorité palestinienne une fois qu'elle est revitalisée, elle est promise à, selon les vues de l'administration américaine, à s'occuper de la gestion de la bande de Gaza et de l'amener petit à petit vers l'émergence d'un État palestinien. Donc on n'a jamais vu ou entendu un haut responsable de l'administration américaine demander des comptes à Mahmoud Abbas. Jamais. Par contre, on voit bien qu'il y a une volonté de dégager, de contourner le Premier ministre israélien, de contourner l'actuelle coalition pour favoriser l'émergence d'un nouveau gouvernement qui est, semble-t-il, perçu par les Américains comme un gouvernement qui serait plus susceptible de répondre favorablement aux exigences américaines. Mmh. Mais il y a là une contradiction dans l'administration américaine. On dit qu'il ne peut pas y avoir de solution avec le Hamas, et en même temps, on prévient Israël de débarrasser l'équation de ce paramètre infernal qu'est l'organisation terroriste du Hamas. Et si je peux terminer, ajouter encore un mot à cet entretien avant d'y mettre un terme. Le président américain dit que le Premier ministre israélien fait plus de mal à Israël qu'il n'en fait de bien, et qu'il contribue à éloigner les démocraties occidentales d'Israël et à se montrer aussi à l'égard de l'État d'Israël. Bien, si l'on en croit les sondages israéliens, 70% de la population israélienne désapprouve Benjamin Netanyahou, mais pas dans la conduite de la guerre. Et pour les Américains, penser que les Israéliens, dont la population est entièrement d'accord avec les buts poursuivis dans cette guerre, c'est-à-dire l'élimination du Hamas, cette guerre serait menée exactement de la même manière par un autre gouvernement. Et ça paraît important de le dire. Lorsque Joe Biden déclare que cette guerre n'est pas menée comme elle devrait l'être, eh bien la population israélienne pense exactement le contraire, et qu'on ne lui fera pas avaler de force la création d'un État palestinien et la survie du Hamas.
Isaac Franco, je rappelle que vous êtes l'analyste politique de Radio Judaïka, chroniqueur de Chercher l'erreur tous les lundis de 17 à 18 heures. Merci beaucoup d'avoir répondu à la question du jour.
Toujours avec plaisir. Merci Blaise.